Dans notre série sur les relations fraternelles dans l'Église, au travers des exhortations contenant le pronom réciproque les uns les autres, j'aimerais ce matin aborder avec vous une septième exhortation que j'avais tout d'abord mise de côté. Pourquoi ? Parce qu'elle me semblait trop similaire avec une des exhortations que nous avions déjà abordées. Cette exhortation se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 24, et elle dit ceci. Tout d'abord, dans la version à la Colombe, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Et en français courant, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire des œuvres bonnes. » C'est sa proximité avec l'exhortation « Exhortez-vous les uns les autres » qui m'avait fait premièrement écarter cette exhortation « Veillons les uns sur les autres ». Mais à bien y regarder, même si on peut trouver des passerelles entre ces deux exhortations, celles-ci sont bien différentes. En réalité, on peut même voir une certaine chronologie dans ces deux exhortations. Ainsi, « Veillons les uns sur les autres » arrive logiquement avant « Exhortez-vous les uns les autres ». C'est parce que nous veillons les uns sur les autres que nous sommes parfois amenés à nous exhorter les uns les autres. J'ai dit parfois parce que l'exhortation n'est pas systématiquement la suite logique de cette vigilance à laquelle nous sommes appelés dans notre exhortation du jour. Parfois, la vigilance de notre exhortation nous amène à ne rien dire ou à ne rien faire ou à dire simplement des mots d'encouragement ou de réconfort. En fait, le regard qui nous est demandé par notre exhortation est certes un regard vigilant, mais c'est surtout un regard bienveillant. Un regard bienveillant duquel vont découler toutes sortes de paroles et d'actions à ce que mon regard, qui sont adaptées, pardon, à ce que mon regard aura perçu. Nous voici donc devant une autre facette de l'amour fraternel, déclinée dans cette exhortation à la vigilance mutuelle. Aimer mes frères et mes sœurs en Christ, c'est avoir une certaine vigilance à leur égard et être au bénéfice de la leur. Après ces quelques propos liminaires, passons à notre deuxième point, quelle vigilance ? En effet, de quoi parlons-nous au juste ? Qu'est-ce que cette exhortation nous demande de faire et qu'est-ce qu'elle ne nous demande pas de faire ? Quels sont les écueils à éviter pour bien comprendre et pour bien vivre cette exhortation ? Pour bien comprendre ce qui est demandé dans notre exhortation, il faut tout d'abord bien saisir le sens du verbe « veiller ». Notons que c'est un verbe qui est assez courant en grec et qui veut littéralement dire « soit remarquer » ou « observer avec attention »,« examiner », »,« voir contempler », »,« considérer » et « regarder » dans un sens spirituel. Et c'est le sens de notre texte qui amène à la traduction de veiller. Donc ce dernier sens, hein, regarder dans un sens spirituel, c'est ce qui amène donc cette traduction de veiller. Notons encore qu'il y a 14 occurrences de ce verbe veiller dans le Nouveau Testament et ce n'est que dans Hébreux 10, verset 24, qu'il est traduit par veiller. Ailleurs, il a le sens de ce regard qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui cherche à comprendre ce qui se cache derrière. Quelques exemples rapidement. Matthieu 7, verset 3. Alors le verbe veiller qui est traduit, enfin ce verbe veiller en grec qui est traduit différemment dans le texte en français est en jaune dans la citation. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Acte 7, versets 31 et 32, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, Et comme ils s'approchaient pour examiner la voix du Seigneur, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait observer. Luc 12, versets 24 et 27, « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, etc. » Et un peu plus loin, à nouveau, « Considérez comment croissent les lys, etc. » Par ces quelques exemples, ces quelques considérations, nous arrivons à la compréhension que le regard qui est sous-entendu dans la vigilance de notre exhortation n'est pas n'importe quel regard, ce n'est pas un regard en passant, ce n'est pas un regard superficiel, ce n'est pas un regard qui s'arrête aux apparences, mais c'est au contraire, au sens propre comme au sens figuré, un regard qui réfléchit à ce qu'il voit, un regard qui cherche à comprendre ce qu'il voit. Ainsi, veiller les uns sur les autres, c'est poser cette qualité de regard sur l'autre pour chercher à véritablement le comprendre et le connaître. Non pas par satisfaction ou pour la satisfaction de savoir ou de comprendre, ni même par curiosité, mais afin de pouvoir agir pour son bien. Nous allons en reparler dans un moment. Je vous propose, deuxièmement, toujours dans notre deuxième point, quelle vigilance, de nous arrêter maintenant sur quelques dangers de cette exhortation, de ce regard qui ne s'arrête pas aux apparences. En effet, le regard dont nous parlons peut facilement être mal compris et être mal vécu. Mal perçu. Il est facile, en cherchant à regarder au-delà des apparences, facile de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, par exemple. Il est très facile d'être indiscret. En effet, il ne faut pas confondre ici vigilance et espionnage, par exemple, ou alors vigilance et inquisition. Notre exhortation, si elle est mal comprise, peut facilement et rapidement entraîner des problèmes relationnels et engendrer bien des souffrances. Il est évident que telle n'est pas la volonté de Dieu derrière cette exhortation. Veiller les uns sur les autres, ce n'est pas empiéter sur la vie privée de l'autre. Ce n'est pas restreindre sa liberté. Ce n'est pas non plus chercher la faille à tout prix, en étant des sortes de gendarmes spirituels pour nos frères et sœurs dans la foi. C'est malheureusement ainsi que beaucoup ont compris et comprennent encore cette exhortation, mais ce n'est pas son sens. Et ce n'est pas là la volonté de Dieu pour les relations fraternelles dans l'Église. Attention donc à ne pas faire de cette exhortation un moyen de jugement, ou un moyen de pression ou de manipulation. Les écueils sont nombreux et subtils sur le chemin de l'obéissance à notre parole. C'est pourquoi il est important de bien la comprendre, de bien comprendre ce que Dieu nous demande ici pour bien le vivre. Et cela nous amène, toujours dans ce deuxième point, quelle vigilance, à parler maintenant du cadre ou des cadres dans lesquels cette exhortation doit être comprise et vécue. C'est notre troisième sous-point. Et le premier cadre que j'aimerais souligner, c'est celui de la volonté de Dieu. Et j'aimerais tout d'abord et très brièvement rappeler ici que notre exhortation vient de la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est ce que nous croyons, et qui reflète sa volonté pour les hommes, et dans notre texte, pour l'Église, pour son Église. Ainsi, notre exhortation n'est pas juste une bonne idée pour que ça marche entre nous, mais une demande du Seigneur pour le bien de son peuple, de son Église. Ce qui implique que nous ne sommes pas ici en présence d'une option facultative, mais plutôt d'une nécessité pour chaque croyant, et pour la vie fraternelle. Notre exhortation se vit donc premièrement dans le cadre de la volonté de Dieu. Le deuxième cadre dans lequel nous devons comprendre et vivre notre exhortation, c'est celui des relations fraternelles. Notre exhortation s'adresse à l'Église et tout particulièrement aux relations fraternelles dans l'Église. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas ici dans le cadre général des relations avec notre prochain. La nuance est importante. Parler des relations fraternelles dans l'Église, c'est tout d'abord rappeler que l'Église, c'est un corps. C'est même précisément le corps de Christ. Et c'est rappeler ensuite que chaque chrétien en est un membre à part entière. Ainsi, parler des relations fraternelles dans l'Église, c'est parler de l'interaction évidente et nécessaire entre les différentes parties du corps, de ce corps. S'il n'y a pas d'interaction, ça veut tout simplement dire que le corps est mort. Parmi tout ce que l'on pourrait dire ici, il y aurait bien des choses à dire. J'aimerais juste souligner deux choses qui me paraissent essentielles au propos de ce matin. Premièrement, devenir et être membre du corps, d'un corps, a fortiori du corps de Christ, c'est accepter de fonctionner dans un tout. Et donc, c'est accepter d'abdiquer volontairement une partie de ma liberté personnelle pour l'intérêt de l'ensemble. C'est accepter que d'autres s'intéressent à ma vie et à mon état spirituel. Chacun pour soi et Dieu pour tous n'est pas une devise biblique. C'est même une devise qui est à l'opposé de ce que doit être l'Église. C'est une devise qui est à l'opposé de notre exhortation. Faire partie d'un corps, du corps de Christ, c'est accepter de vivre cette interaction entre les membres. Deuxièmement, devenir et être membre d'un corps, a fortiori du corps de Christ, c'est accepter non seulement l'interaction entre les membres, mais aussi leur interdépendance. Et cette réalité entre membres d'un même corps, du corps de Christ, est une partie, vous le savez, de la réflexion de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et je vais lire les versets 14 à 21. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Les membres d'un corps ont besoin les uns des autres pour le bon fonctionnement du corps. Ils sont interdépendants. Et dans l'Église, il en va de même. Nous avons besoin les uns des autres. C'est la volonté de Dieu. Et personne n'est autosuffisant dans ce domaine. Le croire, c'est se priver de bien des bénédictions du Seigneur pour nous au travers de nos frères et sœurs. Et c'est ce qui est sous-entendu dans notre exhortation. Et puis d'ailleurs, c'est ainsi que Paul va un petit peu plus loin dans son texte d'1 Corinthiens 12, au verset 25, poursuivre sa réflexion. Il va dire « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Que les membres aient soin les uns des autres. Oui, les chrétiens forment un corps. Le corps de Christ. Et notre exhortation doit se vivre dans ce cadre de l'interaction et de l'interdépendance des membres de ce corps entre eux, qui prennent soin les uns des autres, qui veillent les uns sur les autres. Après, le cadre de la volonté de Dieu et celui des relations au sein du corps de Christ, j'aimerais ajouter un dernier cadre, celui de la réciprocité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, ça ne vous a pas échappé, dit « Veillons les uns sur les autres ». C'est donc uniquement dans la bilatéralité, dans la réciprocité, que notre exhortation peut et doit se vivre, en évitant, bien évidemment, les risques dont nous avons déjà, les dangers dont nous avons déjà parlé. En fait, si la vigilance qui nous est demandée est à sens unique dans une relation, si elle est unilatérale, si tout le monde dans l'Église ne joue pas le jeu, alors nous finissons par créer un cadre qui est propice non pas à l'amour et aux œuvres bonnes, mais à la suspicion, au jugement, et j'en passe. Cette réciprocité dans la vigilance de notre exhortation met en exergue une chose très importante. Dans l'Église, personne n'a le monopole de la vigilance fraternelle ou de la surveillance, pourrions-nous dire. Pas même le ou les pasteurs. Il y a d'ailleurs un verset dans l'Épître aux Hébreux, un peu plus loin, qui le souligne bien. Et c'est d'ailleurs le seul autre verset de cet Épître qui utilise le verbe veiller, mais c'est un autre verbe en grec, et qui est aussi un verbe qui est utilisé dans le cadre des relations fraternelles. Je lis Hébreux 12, versets 15 à 16. Veillez, c'est donc un autre verbe, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Parmi tout ce que l'on pourrait faire remarquer ici, j'aimerais simplement dire une chose. Le verbe « veiller » qui est utilisé ici est un verbe qui signifie littéralement « veiller, inspecter, surveiller, faire attention à ». Et c'est le verbe qui va donner un nom en grec et qui d'ailleurs se retrouve en français, c'est le nom « épiscopos » qui donne « épiscopal » par exemple, « épiscopos » et que l'on traduit en français par « évêque » ou « surveillant », c'est-à-dire ceux ou celui dans l'Église qui veille sur le troupeau de Dieu. Et donc cela nous amène à comprendre que notre exhortation, les textes de l'Épître aux Hébreux, nous font comprendre que chaque membre est appelé ici à faire ce que l'évêque ou les évêques, les responsables de l'Église, font pour l'Église dans son ensemble, à savoir veiller, chacun est appelé à veiller sur son frère ou sa sœur dans la foi. Ainsi, nous voyons bien que nous sommes dans une forme de réciprocité qui souligne bien que personne dans l'Église n'a le monopole de cette surveillance, de cette vigilance fraternelle. C'est l'affaire de tous, pour le bien de tous. Si je suis un enfant du Seigneur, il est de ma responsabilité de veiller sur mes frères et mes sœurs dans la foi. Et il est de la responsabilité de mes frères et mes sœurs en la foi de veiller sur moi. Nous arrivons maintenant à notre troisième et dernier point, dans quel but ? En effet, la vigilance à laquelle nous sommes appelés n'est pas un but en soi. Que dit le texte d'Hébreux 10, verset 24 ? Je le relis. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Quel est le but, ou plutôt quels sont les buts précisés de la vigilance fraternelle, mutuelle? Notre verset en cite deux, nous inciter à l'amour et nous inciter aux œuvres bonnes. Quels sont les buts de notre exhortation? Les buts de ce regard qui ne s'arrête pas aux apparences, c'est de faire de nous, par l'interaction et par l'interdépendance, des chrétiens toujours plus aimants, des chrétiens toujours plus charitables, des chrétiens toujours plus enclins aux œuvres bonnes. Voilà de quoi il s'agit. Nous pourrions ici enrichir le propos, si nous avions le temps, avec ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans ces versets 15 et 16 du chapitre 12 que nous avons déjà cité, quand il exhorte à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme le fut Ésaü. Ces versets, tout comme notre exhortation, visent notre bien et celui de nos frères et de nos sœurs en Christ. Ils visent notre sanctification. Ils visent notre croissance spirituelle. Ils visent à contribuer à faire de nous des hommes et des femmes qui marchent toujours plus et toujours mieux dans les sentiers de la justice, dans les voies de Dieu, en aimant en parole et en acte, en veillant les uns sur les autres. Notre exhortation refuse donc le statu quo dans nos vies, dans la vie chrétienne. Et au contraire, elle pose des fondements pour que nous puissions chacun marcher de progrès en progrès dans le domaine de l'amour et dans le domaine des œuvres bonnes dans le cadre des relations fraternelles. Alfred Kuhn, dans son livre « Les uns les autres », donne deux exemples quand il parle de cela. Ce ne sont que des exemples, mais ce sont des exemples concrets et il nous laisse entrevoir le champ des possibles. Et voilà ce qu'il écrit. Lorsqu'un frère ou une sœur est tenté de répondre à la haine par la vengeance, un cas de figure qui peut se présenter, Dieu attend de nous que nous leur conseillons riposte par l'amour. Lorsqu'ils se lassent dans un foyer difficile, avec des enfants impossibles, le Seigneur veut que nous les exhortions. Continue à aimer ton conjoint, gagne tes enfants par l'amour. Cela signifie, termine-t-il, voir dans chaque situation comment on peut surmonter la difficulté en encourageant à mieux aimer et à faire du bien, à donner, à prêter, à aider, à témoigner concrètement son amour aux autres. Chers frères et sœurs, voilà concrètement ce que veiller les uns sur les autres peut signifier. Voilà concrètement à quoi ce regard, qui ne s'arrête pas aux apparences, peut nous amener dans nos relations fraternelles, avec bien sûr, je le redis, beaucoup de sagesse et toutes les vigilances que nous avons évoquées, même celles dont nous n'avons pas parlé. Chers frères et sœurs, nous avons besoin dans l'Église les uns des autres pour notre bien spirituel à chacun, pour bien vivre la vie chrétienne à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre cette exhortation au sérieux et nous responsabiliser chacun pour faire tout notre possible pour nous y conformer. La bonne santé du corps qu'est l'Église dépend en partie bien évidemment, de tous ces regards mutuels qui ne vont pas s'arrêter aux apparences et qui vont aboutir à de l'amour et à des bonnes œuvres. C'est ce que souligne à sa manière l'illustration qu'Alfred Kuhn utilise dans son livre « Toujours les uns les autres » et que j'aimerais citer pour conclure. Cela est bien évident, dit-il, dans le corps. Nos yeux veillent sur l'état de santé de tous les membres. Dès qu'ils remarquent une rougeur anormale, un teint blafard, des yeux jaunes ou cernés, ils alertent le cerveau, qui mobilise tous les membres pour y remédier. Les mains suppléent les yeux en dehors de leur champ de vision et complètent leur diagnostic. Elles ont soin des membres endoloris, malades ou blessés. Elles les enduisent de pommades guérissantes, les massent, les pansent. Que de la même manière, les membres aient soin les uns des autres, nous dit Paul. Oui, nous avons besoin les uns des autres. Et nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. C'est exigeant, mais c'est glorieux. C'est exigeant, mais c'est pour notre bien. C'est exigeant, mais c'est la volonté de Dieu. C'est exigeant, mais c'est pour sa gloire. Alors veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Amen.